Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Géraud et vous êtes actuellement sur le podcast de Dr Love, le service d'accompagnement pour célibataires que j'ai fondé. Dans ce podcast, je parle d'amour à l'heure des apps de dating, seul ou avec des experts, et avec une ambition, vous donner les clés pour vivre l'émotion ultime qu'est l'amour. En espérant que ça vous plaise et surtout que ça vous aide, bonne écoute. Avant que le podcast démarre, je tenais juste à m'excuser pour la qualité sonore qui va suivre. Il y a un petit réglage que j'ai mal fait, je suis pas encore un expert, et j'espère que vous m'en voudrez pas. Comptez sur moi en tout cas pour pas que ça se reproduise. Merci. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur d'être invité chez Sud Radio pour parler d'amour. Parmi les invités, un certain Pascal Lardelier. Pour être tout à fait honnête, au début je ne le connaissais pas. Mais quand il s'est mis à parler, j'ai regretté que ce ne soit pas le cas. J'ai trouvé sa prise de parole et son analyse des interactions amoureuses extrêmement riche, et je dirais même rafraîchissante, loin du pessimisme ambiant dès qu'il s'agit de nouvelles technologies dans le monde de l'amour. À peine rentré chez moi, j'ai donc décidé d'en apprendre plus à son sujet. Pascal est professeur des universités, mais aussi écrivain. Il a rédigé de nombreux bouquins de sociologie, dont plusieurs sur la thématique, justement, des nouvelles technologies et des relations amoureuses. Bref, Pascal est reconnu dans son domaine, et il a même une page Wikipédia à son nom, c'est pour vous dire. Et il a tellement piqué ma curiosité que j'ai décidé d'acheter son dernier bouquin, « S'aimer à l'ère des masques et des écrans ». Que dire, si ce n'est que je l'ai dévoré. Alors, je ne vous cache pas qu'en lisant ce bouquin, ça m'a un peu ramené à mes années lycée et à mes cours de sociologie. Et justement, ça m'a permis de me remémorer pourquoi j'aimais tant cette matière. Car elle permet de prendre du recul sur les choses que nous vivons, au jour le jour, et d'en comprendre les mécanismes, les origines et les conséquences. Et en l'occurrence, avec ce livre, sur un sujet qui nous concerne tous et nous passionne tous, les relations amoureuses. Vous l'aurez compris, mais j'ai trouvé ce livre tellement enrichissant que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Et pour cela, quoi de mieux que de le faire directement avec l'auteur. Salut Pascal.
Salut Antoine.
Écoute,
et merci de ton invitation.
Mais merci de l'avoir accepté surtout. Alors, avant, est-ce que ça va l'intro? J'ai pas dit de grosses conneries, c'est bon?
Non, écoute, je suis auteur, plus qu'écrivain, je suis auteur, je suis professeur d'université, voilà, à Dijon, à l'université de Bourgogne, et puis c'est vrai que tu le disais aussi, ce qui va nous amener à discuter pendant ce petit moment ensemble, c'est que je suis, je pense qu'on peut dire que je suis l'un des spécialistes théoriques de la rencontre amoureuse sur Internet, puisque... Eh bien, en 20 ans, j'ai fait 3 livres. Alors, tu as aimé, et je t'en remercie infiniment, « S'aimer à l'ère des masques et des écrans » que tu citais à l'instant, que j'ai fait chez l'Aube en 2022, il y a un peu moins d'un an. Et puis, en 2012, j'avais fait « Les réseaux du cœur, sexe et amour sur le web ». Et en 2003, j'avais fait « Le cœur net, célibat et amour sur le web » ou quelque chose comme ça. Voilà, donc en tout cas, je connais un peu le sujet parce que j'ai fait cette approche longitudinale sur 20 ans, des évolutions et des révolutions de l'amour online, en fait, voilà.
Bah, c'est super, et justement, une de mes questions, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te passionner ou à travailler, à écrire des 3 bouquins sur ce sujet?
Alors écoute, au tout début de l'histoire, il y a 20 ans déjà, deux choses arrivent dans ma vie. Alors, j'assurais depuis longtemps des cours, puisque je suis professeur de sciences de la communication et puis de sociologie, tu le dis aussi. Et donc, j'assurais des cours sur les relations interpersonnelles. Qu'est-ce qu'une relation? Et je m'aperçois, au début du siècle, en fait, hein, que les relations évoluent à cause ou grâce aux nouvelles technologies. Et je m'aperçois que là où auparavant une relation, bah, c'était quand même rencontrer la personne dans la vraie vie, eh bien ces relations, elles se numérisent doucement. Alors mes étudiants me disaient, ben monsieur, on discute avec des gens qu'on ne connaît pas, et puis on a des relations très très fortes avec eux. Donc je plonge dans les sites de rencontres parce que, écoute, je vais être sincère avec toutes tes auditrices et avec tous tes auditeurs, j'étais célibataire. Alors un jour, bah, j'étais jeune et beau, il y a un peu plus de 20 ans. Hein.
Donc, oh, tu l'es toujours.
Bon, vous irez voir mes photos sur Internet. Bon, ma foi, j'espère qu'en étant bourguignon, j'ai pris plus de bouteilles que de bouchons, ma foi. Bon. Et donc, je trouve un article du Nouvel Observateur, à l'époque, ce n'était pas encore l'Obs, et l'article, c'était le dossier du mois, c'était en 2001, je crois, à peu près, c'était « Trouver un Jules sur Internet ». Et puis, alors, je lis le dossier. Et puis, bien évidemment, il disait que cette révolution arrivée des États-Unis, tu te rends compte, 2000 ans, c'était les tout débuts d'Internet hein, quand même. Et je m'inscris sur un site parce que j'étais célibataire, et là, c'était la sidération. Je noue des relations d'une grande intensité, d'une grande profondeur, avec des gens qui étaient pour moi, et j'ai souvent employé cette expression, des inconnus intimes. Alors on était derrière des pseudos, on était derrière des écrans, et on partageait des soirées durant, eh bien, des fantasmes, des confidences, des confessions, des aspirations, des rêves, des blessures, bref. Je m'aperçois que ces nouvelles technologies révolutionnent la rencontre amoureuse, et puis, après je suis entré en couple, après il m'arrivait plein de choses très officielles, mais je suis toujours resté l'un des spécialistes du sujet, parce que de plus, les choses n'ont cessé d'évoluer. Voilà, et on va en parler au fil de l'émission, mais il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de révolutions dans la manière dont l'amour en ligne a évolué, et voilà, et je suis un petit peu le sociologue ou l'ethnologue des amours numérisés.
Écoute, tu viens d'expliquer un peu la raison pour laquelle je t'ai invité, pour laquelle c'est d'ailleurs un honneur pour moi de t'avoir. Alors, ce bouquin, comme je disais, je l'ai vraiment dévoré, et il y a pour moi une des premières grandes théories que tu avances. Tu parles de crise de l'engagement. Alors, est-ce que d'abord tu peux un peu nous expliquer ce que c'est une crise de l'engagement, selon toi ?
Alors, la crise de l'engagement, ça renvoie déjà à quelque chose de sociologique très sérieux. Mais c'est un concept qui me semble très important pour comprendre ce qui arrive au couple notamment. Et ce concept, c'est la désinstitution. La désinstitution en un mot. Longtemps, les destins, les identités, elles ont été scellées, elles ont été cimentées par les institutions. Et les institutions, c'était la famille, le couple, le mariage, pour le meilleur et pour le pire. On connaît la formule consacrée. Et puis c'était l'entreprise, c'était l'école, c'était l'armée, c'était le syndicat, c'était le parti politique, etc. Eh bien, ces institutions, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été dans un premier temps ébranlées, remises en question, et puis, mai 68 est passé par là, elles ont été complètement renversées. Et dans un premier temps, nous sommes déjà tous sortis des institutions, désormais, et puis ces institutions, nous sommes devenus vis-à-vis d'elles hyper critiques. Voilà. Donc on fait le procès de l'école, on fait le procès de la religion, de l'entreprise, de l'armée, qui n'existe plus sous sa forme de conscription. Et puis, en première ligne de cette remise en question des institutions, il y a le couple, bien évidemment. L'engagement et la crise de l'engagement, c'est que finalement Antoine, là où il y a encore quelques décennies, pour nos parents, nos grands-parents, on restait ensemble, j'y reviens, pour le meilleur et pour le pire, et puis on faisait le dos rond quand il y avait des problèmes, quand il y avait du désamour, quand il y avait des remises en question, et bien maintenant, on va sortir du couple sans aucune vergogne, parce que finalement, tout le monde fait comme ça, et puis parce que l'époque qui a institué une espèce de tyrannie du plaisir nous y invite, et puis parce que bien évidemment, les sites de rencontres et les applis nous y incitent aussi. Bien sûr.
Et tu expliques, donc ça mène à on rentre dans l'ère de l'individualisme.
Oui, oui.
C'est ça, où tu parles aussi d'ailleurs de la, si j'avais bien compris, donc il y a un peu trois facteurs, donc la désinstitution que tu viens de citer, oui. L'ère de l'individualisme dans lequel on rentre, et aussi la possibilité de divorcer à moindre coût. En tout cas...
Alors, tu employais un mot qui fait écho à la désinstitution, c'est le mot individualisme. Et c'est vrai que l'institution, par nature, elle est collective. Eh bien, c'est vrai que dès que l'institution, et notamment conjugale, est remise en question, c'est vrai qu'on va suivre ce que l'on dit un peu savamment en sociologue, c'est-à-dire des trajectoires d'autonomie. Et la trajectoire d'autonomie, c'est le fait que l'on est inscrit comme des consommateurs. Et je ne le dis pas comme un moraliste, je le dis comme un sociologue, on est inscrit comme des consommateurs sur les sites de rencontres et sur les applis. Voilà, donc on est en plein marketing amoureux, et puis chacun est son propre cyberagent matrimonial, et puis on va être là, on va comparer, on va tester, on va adorer ou détester, on va jeter, c'est ce que j'ai appelé il y a bien longtemps le zapping relationnel, mais c'est vrai qu'on est dans une logique, pour revenir à ce que tu disais, très individualiste dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, dans une logique quand même très très consumériste, il faut le reconnaître.
Ouais, t'en parles un peu plus tard dans ton bouquin, t'appelles ça le libéralisme amoureux, oui. Un peu, y a cette idée, on va y revenir. Et il y a une phrase que je trouve très belle, un moment que je vais citer, la solitude est le revers de l'individualisme caractérisant notre époque. Parce que justement, oui. Une des conséquences de ce phénomène, oui. Le premier, c'est qu'il y a une hausse du nombre de célibataires et une hausse de la solitude, c'est ça ?
Bah, écoute, c'est un des très, très, très grands paradoxes de notre époque, Antoine, puisqu'on est dans une société de communication. Nous sommes bardés de prothèses relationnelles, des téléphones, des tas d'ustensiles, des tablettes, des ordinateurs, bien évidemment, qui nous permettent de communiquer avec autrui. Mais, selon l'adage consacré, nous sommes de plus en plus communicants et nous sommes de moins en moins rencontrants. Alors, c'est vrai que c'est quand même un des paradoxes de notre époque, et la crise du Covid a encore accéléré cela, hein, puisque la distance et la distanciation sont devenues de nouveaux impératifs sociaux, de nouvelles valeurs, de nouvelles normes. Alors là, si on a un peu baissé la garde, hein, sur la distanciation, les gestes barrières, le masque, mais on sait très bien que demain, une nouvelle épidémie ou un nouveau virus arrive, eh ben, on aura été acculturé et que cette distance, elle remontera effectivement en puissance. Et puis pour revenir à ce que tu disais, Antoine, bah c'est vrai que le paradoxe de notre époque, c'est que dans cette société dite de communication, eh bien, il y a une véritable épidémie de solitude. Covid a encore accéléré cela, hein, mais la solitude est ressentie par un nombre incroyable de gens. Et ouais. Paradoxe, et puis blessure narcissique de cette société de communication. Voilà.
J'appelle ça la solitude connectée. Et alors, il y a un autre impact, et c'est ça que je trouve assez intéressant. Alors, si j'ai bien compris, toi, tu penses, contrairement à pas mal de gens, que cette crise, c'est pas la conséquence de l'apparition des sites et des applications, mais plutôt que ces sites et applications ont apparu justement car il y a cette crise. En gros, pour combler un vide. C'est ça.
C'est vrai qu'il y a eu l'apparition d'Internet, hein, bien évidemment, mais Internet n'a pas causé l'individualisme et la solitude. Il a pris acte d'une société et il a accompagné d'abord et accéléré ensuite ce mouvement. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable de savoir que dans une ville comme Paris, eh bien, un appartement sur deux est occupé par une personne seule. Et puis que nous avons recours aux sites de rencontres pour tout simplement rencontrer des gens dans le cadre de ce que les sites de rencontres appellent des events, qui marchent très très bien. Et là où tu vas même pas calculer ton collègue...
Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Les events, bah, tu sais, ce sont ces soirées que tous les grands sites...
Ah ok, les events, ouais.
Voilà, les events, ouais, voilà. Et donc, on va aller faire un cours d'œnologie, on va faire un tour de Paris by night en vélo avec des personnes que l'on n'aurait même pas calculé dans la vraie vie un quart d'heure avant. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a une méfiance généralisée, de surcroît, il y a une méfiance généralisée entre les genres et entre les sexes. Et c'est vrai que là, on prend acte aussi de la judiciarisation et de, si tu me permets l'expression, de l'hashtagisation des rapports de séduction, en fait. Hein. Voilà.
Donc, ouais. Pouvoir en parler de ça aussi. Alors, en fait, si je comprends bien, tu dis que cette nouvelle liberté qu'on a tous de pouvoir choisir un peu notre compagnon avec qui on décide de se mettre, cette liberté, elle est vertigineuse, en fait. Et elle peut créer aussi une forme de paralysie, ou en tout cas de maintien dans la solitude, parce qu'on se dit, mais... on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et d'ailleurs, il y a, je sais plus si t'en parles dans ton bouquin, mais il y a un scientifique qui s'appelle Barry Schwartz qui en a parlé, qui appelle ça le paradox of choice. Le fait que dans nos sociétés libérales, plus on a de choix et plus on peut être paralysé face aux choix qu'on doit faire et regretter ce qu'on n'a pas fait et se retrouver dans une solitude anxieuse, en fait.
Oui, ça met beaucoup de pression, cette liberté vertigineuse, ça met beaucoup de pression sur les individus, et notamment dans le cas de la rencontre amoureuse, puisque c'est vrai que l'institution dont je parlais tout à l'heure, elle avait quelque chose de confortable, c'est qu'elle te donnait une identité, elle te donnait un rôle, elle te donnait une fonction, elle te donnait une place. Et après, les choses, alors oui, tu avais moins de liberté, mais les choses étaient écrites et les rails étaient tracés. Et maintenant, c'est vrai que on ne sait jamais, même quand on rencontre quelqu'un sur un site de rencontre ou sur une appli sur lesquelles on est inscrit, on ne sait jamais si c'est la bonne personne. Et puis, il suffit de se réinscrire un moment pour voir qu'il y a 10 ou 100 sollicitations. Donc la liberté, elle est vertigineuse, on y revient. Et soit on est dans une quête en avant perpétuelle et permanente, mais on va juxtaposer les histoires sans lendemain. Et puis soit on est paralysé, comme tu le disais, parce qu'on a un tel choix qu'on ne sait plus quoi faire. Donc on reste à regarder les rayons, les rayonnages du magasin, sans véritablement entrer dans la danse.
Et pourtant, tu dis que le couple reste l'objectif social ultime. Alors, je vais te citer juste une phrase que j'ai aussi beaucoup aimée. Il est philosophiquement intéressant de constater que nous frissonnons toujours pour ce monde ému, alors je ne sais pas comment on le prononce, mais exclusif, monogame et ultime, tout en œuvrant sans cesse à son effondrement. Le couple amoureux, telle est bien la norme, et le couple uni par l'évidence du coup de foudre, le nec plus ultra.
Oui, alors en fait, cette citation n'est pas de moi, elle est de Richard Mento dans un livre dont le sous-titre est « Comment bien rater sa vie sexuelle ?» Alors, tout un programme. Mais il a raison, de toute façon, c'est des choses que j'aurais pu dire en effet et que je cite à bon escient. Mais c'est vrai qu'en permanence, on nous vend le couple comme un idéal et comme un horizon et un point d'horizon à atteindre. Et d'un autre côté, nous sommes dans une société de loisirs, de frivolité, de légèreté, etc., où en permanence, on nous dit « amusez-vous, éclatez-vous, cumulez les histoires et les aventures, etc. » Et c'est un paradoxe qui peut rendre les célibataires, me semble-t-il, assez schizoïdes, en fait, hein, parce qu'il y a cette injonction paradoxale, c'est l'expression que je cherchais, entre le couple, qui est un peu la valeur refuge, et puis alors regarde par exemple toutes les comédies sentimentales, toutes les séries, hein, c'est vrai qu'en permanence le couple c'est une espèce d'horizon moral avec une espèce de tyrannie universelle pour la romance, et puis d'un autre côté cette injonction à s'éclater, à vivre les choses pour l'expérience, pour le fun, etc., etc. Donc pas évident de trouver sa voie pour les millions de célibataires de nos sociétés, en fait.
Et est-ce que tu penses que cette crise, elle est passagère ou qu'en fait, on est en train un peu de reconstruire, de remodeler la manière de se mettre en couple ou la manière d'entrer en relation, etc. Et que donc, on va aboutir sur que cette crise va avoir une fin, ou bien tu penses qu'elle va être vraiment très durable?
Je pense qu'on est entré quand même dans un modèle de société et dans un modèle conjugal et de conjugalité, il faut bien reconnaître, où le CDI, l'amour en CDI, c'est presque terminé. Il faut reconnaître que désormais, on aime en CDD, on va effectivement être sur des modèles plus pragmatiques et contractualisés du couple. Ça n'empêche pas l'amour, attention, et ça n'empêche pas le grand amour, mais je pense que le modèle de société qui va prévaloir, c'est celui effectivement d'un espèce de partenariat conjugal. On sait d'ailleurs que beaucoup de couples restent ensemble parce que ça permet d'amortir les frais, etc., etc. Alors je ne dis pas que c'est la norme, hein. Mais en tout cas, même si l'amour, je veux le croire et l'espérer, hein, en grand romantique que je suis peut-être, l'amour a encore de beaux jours devant lui, mais je crois que le couple, il va de plus en plus être contractualisé. Et puis, je te le répète, je crois que l'amour en CDI, c'est terminé, que désormais, on va de plus en plus aimer en CDD, en fait. Hein, parce que pour faire couple en 2023, dans nos sociétés, avec la catégorie de personnes que nous sommes, toi et moi, Antoine, avec le profit socio-culturel et socio-économique qui sont le nôtre quand même, hein, et je crois que ça, c'est un biais sociologique intéressant, je crois que de plus en plus, effectivement, le couple va être effectivement quelque chose, j'y reviens, d'assez contractualisé, en effet, et qui peut être remis en question en fonction de ce que les individus ressentent et tout. Sachant que le couple de 2023, c'est un couple dans lequel l'amour et le désir doivent être ressentis continuellement. Est-ce que tu te rends compte? Pendant très très longtemps dans l'histoire de l'humanité, l'amour et le désir, c'était les invités surprises du couple et de la famille.
Et enfin, le mariage de raison.
Eh bien voilà, le mariage de raison, parce que tu sais que pendant très très longtemps, avant les sites de rencontre, j'en ai fait l'histoire dans mon premier livre en 2003, il y avait des marieuses dans les villages de la France de l'Ancien Régime, il y avait des notaires au 19e siècle qui disaient qui devait être avec qui en couple, parce que ça arrangeait les familles en termes de remembrement, en termes de dot, etc. Et c'est vrai que je reviens à ce que je disais, mais c'est très important, l'amour et le désir, ce sont les invités surprises désormais qui doivent être ressentis en permanence. Et quand il y en a des deux qui va bugger, on va se remettre en question, quoi.
Je vais, à ce sujet-là, je vais citer un passage de ton bouquin. Je cite « Pendant très longtemps, le couple relevait d'une sorte de fatalisme. On appelait cela les mariages de raison. Le destin conjugal était terne ou heureux, selon que le mariage fût pesant ou providentiellement scellé par une flamme, l'amour, s'il y en avait, et les chances étaient plutôt faibles. » qui était totalement le fruit du hasard. Désormais, nous sommes totalement libres, libres d'aimer, de s'engager, etc. Ça, je l'ai déjà dit. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Mais quand tu dis que le couple en 2023, où on va peut-être assister à une contractualisation du couple, est-ce que d'une certaine manière, on ne va pas reprendre un ingrédient du mariage de raison ?
Oui, oui, ben je crois qu'on est un peu là-dedans parce que le libéralisme s'est invité dans la partie et je crois qu'en effet, c'est vrai que ben, le mariage de raison, puis je crois qu'il va y avoir dans une société qui est en crise et déjà en crise économique, avant même de parler de la crise morale, quête de sens, etc., qui affecte notre société, mais je crois que très, très, très concrètement, de plus en plus de couples vont se constituer, se mettre ensemble ou rester ensemble pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire partager les frais, etc., etc. Et ça, c'est une donnée qui ne me semble pas marginale. Hein. Je crois que comment vivre à Paris si on veut pas faire tous les jours deux heures de RER parfois, eh bien, c'est peut-être se dire qu'on va trouver une espèce d'arrangement avec des gens avec qui ça sera plus que un petit peu plus que du sex free ending, ça sera moins que de l'amour toujours, et ça sera, tu as raison, finalement, un amour ou un couple rationnel et de raison. Voilà.
Ok, hyper intéressant.
J'aimerais qu'on... émergente, en tout cas. Tendance émergente, je pense. Hein.
Ok. J'aimerais qu'on parle rapidement des sites et des applications de rencontres. Alors, tu oui. expliques qu'à un moment dans ton bouquin qui transforme profondément nos rapports amoureux et tu parles d'une révolution relationnelle à plusieurs niveaux. Je vais citer les quelques points et je te laisserai rebondir. D'abord, oui. tu parles du polygaming, on va un peu oui. définir ce que c'est, qui a aussi un effet désinhibant. Insularisation et privatisation de la rencontre, troisième point, et enfin, inversion chronologique des événements. Est-ce que tu oui. peux rapidement nous expliquer un peu ces quatre points ?
Oui, oui, c'est hyper technique, en tout cas c'est un petit peu théorique, mais c'est bien de donner des clés. Alors, tu vas juste me lancer sur chacun.
Et puis polygaming.
Alors, le polygaming, c'est un concept que j'ai proposé il y a une douzaine d'années, parce que j'avais été étonné de voir que des gens que j'enquêtais dans le cadre du deuxième livre que je faisais, Les Réseaux du Cœur, il est paru en 2012, et donc j'avais été étonné d'enquêter des gens qui me disaient, des vingtenaires ou des trentenaires, et ils me disaient qu'ils avaient plusieurs histoires. Alors c'est ce qu'on a appelé aussi le polyamour. Mais moi, c'est le polyamour qui est aidé par les nouvelles technologies. Et en fait, le polygaming, pour te répondre, c'est le fait que des gens cumulent plusieurs histoires. Alors, ce n'est pas que du sexe, hein. C'est des histoires où il y a un petit peu de romance, un petit peu de sentiment. Parfois, c'est juste du sexe. Mais on va, grâce aux ressources que nous permettent les nouvelles technologies, c'est-à-dire écrire à des centaines de personnes et puis avoir quelques dizaines de réponses et puis rencontrer des personnes avec qui ça va matcher d'un point de vue physique et social. Et donc, le polygaming, c'était tout simplement ça. C'est le fait que les nouvelles technologies permettent à la drague de passer de l'artisanat à l'industrie, si je puis dire. Et puis, le fait que des gens cumulent des histoires, ont deux, trois, quatre amants ou maîtresses à la fois, sans se cacher, sans qu'il y ait duplicité. Et ça, c'est l'évolution des mœurs qui vont le permettre, c'est l'abaissement de la digue morale qui fait que là où auparavant tu n'osais pas dire à tes copines ou à ta famille ou à tes copains que tu avais plusieurs aventures en parallèle, maintenant tu vas le dire sans aucun problème. Et puis bien évidemment, j'y reviens, je conclue, ce sont les nouvelles technologies qui vont permettre cela par la manière dont elles vont permettre d'industrialiser véritablement la drague et la rencontre.
Et il y a aussi l'effet désinhibant, donc ça je vais citer un petit passage, donc je vais essayer de le définir avec mes mots et tu vas me dire, mais en gros c'est on s'affranchit du regard social et on ose des choses qu'on n'aurait jamais osé avant, parce qu'il y a aussi le phénomène d'anonymisation qu'on retrouve sur les sites et les applications, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait, c'est vrai que dans la vraie vie il y a le regard d'autrui, il y a le regard social même. Qui fait que dans une boîte de nuit ou dans un club de sport, tu vas pour draguer. Alors déjà, l'avantage, dit en passant, l'immense avantage des applis et des sites de rencontres, c'est que là, le statut partenarial est affiché. Donc normalement, tu es sur un site de rencontre, il y a plutôt des célibataires.
Si tu mens pas.
Voilà, comment?
Si tu mens pas, enfin pas toi, évidemment, mais il y a pas mal de gens qui peuvent, qui peuvent tricher.
Mais c'est vrai que dans un club de sport, par exemple, ou dans une boîte de nuit, dans un dancing, bah, ou dans un club de danse, ou n'importe où, tu vas aller aborder des gens, tu n'es pas sûr que la personne soit libre. Et puis le copain ou la copine peut revenir des toilettes deux minutes après. Alors que sur un site, déjà, il y a ce côté-là. Puis quand tu es dans la vraie vie, eh ben, tu ne peux pas aborder 2, 3, 4, 5 personnes à la suite parce que soit le videur, soit le patron va dire bah, « Écoutez, monsieur, il faut vous calmer là. » Alors que sur un site de rencontre, tu peux effectivement, c'est désinhibant, il n'y a pas le regard d'autrui, il n'y a pas le regard social. Donc allons-y, copier-coller et hop, c'est parti.
Et l'insularisation et privatisation de la rencontre. Donc ça, c'est une théorie que tu expliques qui est avancée par la sociologue Marie Bergström. Ouais.
Voilà. C'est pas de moi, donc on va aller vite. C'est de Marie Bergström qui a écrit Les Nouvelles Lois de l'amour il y a quelques années à la découverte. Voilà, et elle expliquait très bien que, effectivement, eh bien, là où auparavant la rencontre amoureuse il y a 25 ans, c'était par un maillage social et relationnel, les amis, un dîner, un club, le travail, tous ces lieux où on rencontrait et où la production de la relation amoureuse, elle se faisait par l'entremise et sous le regard de tout ce réseau social, n'est-ce pas ? On présentait une bonne copine dans un, ou un bon copain célibataire dans un dîner, et bien maintenant, ça se fait derrière des écrans, de manière privatisée parce que tu es chez toi, tout seul, et puis personne ne voit ce qui se passe et ce que tu dis et ce que tu écris, et puis insularisé parce que la relation, elle existe dans une espèce d'entre-deux numérique et relationnel qui existe par les nouvelles technologies et grâce à elles. En fait, dès 2003, je disais qu'on apprend à connaître autrui de l'intérieur désormais et que le processus de la rencontre amoureuse, il est inversé. Et c'est en fait un petit peu ce que Marie Bergström dit aussi avec cette privatisation et cette insularisation. Et puis alors, pour les personnes de tes auditeurs et tes auditrices, Antoine, qui sont de ma génération, il y a un film qui mettait vraiment des images là-dessus. Alors, il faut le voir ou le revoir. C'est une affreuse comédie sentimentale américaine, mais vraiment, ça brossait le tableau de ce que l'amour online est devenu. C'est un film qui s'appelait, enfin, qui s'intitulait « Vous avez un message ».
Ok.
Avec Meg Ryan et Tom Hanks, au tout début de leur carrière. Et donc, ce film, allez le voir, il est de 99.
Ok. Alors,
pour la petite histoire, alors, tu vas t'éclater.
Parce que je vais le regarder.
Vous allez vous marrer parce que c'est vraiment que. Alors, hier, le pitch de film, mais c'est sur l'affiche. Il te déteste dans la vraie vie, il tombe amoureux sur Internet.
Et l'inverse est aussi vrai d'ailleurs.
et en fait, ce film, pour les vrais cinéphiles qui nous écoutent, ça reprenait un scénario d'Ernst Lubitsch, un scénariste autrichien des années 40 et 50. Et donc, le film, effectivement, c'était The Shop Around the Corner. Et clin d'œil de la réalisatrice de « Vous avez un message », la petite librairie que Meg Ryan tient à Greenwich Village s'appelle « The Shop Around the Corner ». Petit clin d'œil, voilà.
Ok, bah écoute…
Allez voir ce film, « Vous avez un message », et vraiment, ça va vous intéresser, je pense.
Je vais le regarder, et puis on t'en dira des nouvelles.
Ouais,
et,
bien sûr.
Et le dernier point, et après on va revenir à des choses plus terre-à-terre, c'est l'inversion chronologique des événements. Donc… Là, ce que tu dis, c'est que en fait, on apprend à se connaître avant de se rencontrer, et donc là, tu l'as dit, on se découvre de l'intérieur.
Oui.
Alors qu'avant, c'était l'inverse. Tu veux rapidement réagir là-dessus ou j'ai été clair ?
Redis-moi, s'il te plaît.
Donc l'inversion chronologique des événements, ça c'est le dernier point, le dernier impact des sites et des apps de rencontre qui transforment les rapports amoureux.
Eh ben, je vais te raconter une anecdote incroyable.
Dis-moi.
J'ai fait une émission de radio, c'était chez Laurence Ferrari sur RTL il y a très 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 longtemps. Ça date à la sortie de mon premier livre, Le Cœur Net, en 2003. Et en plateau, il y avait avec moi un couple. Ce couple tombe amoureux sur Internet. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de chat forum, il n'y avait pas de vidéo, on s'écrivait. Et c'est vraiment l'époque de ce que j'ai appelé aussi dans ce livre-là le néo-romantisme technologique. Et ce couple se met à s'écrire sur Internet, ils tombent amoureux, comme Meg Ryan et Tom Hanks, mais je ne vais pas spoiler le film, et ils se donnent rendez-vous, je me rappelle, c'était à Montpellier, ils se donnent rendez-vous devant leur tableau préféré du musée Fabre à Montpellier, parce que les deux adoraient le même tableau dans le musée. Écoute-moi bien, ils donnent rendez-vous devant le tableau. Ils matchent grave niveau physique. Ils s'embrassent, et je te la fais courte, ils se roulent une pelle, et le premier soir, ils vivent ensemble. Extraordinaire.
Ah, c'est marié au premier regard avant l'heure.
Ouais, et ben effectivement, il racontait en plateau, c'était très touchant, il disait « On a pris tellement d'avance par les échanges sur Internet, par nos conversations téléphoniques, par les SMS, que finalement la rencontre n'a fait que valider, qu'on était fait l'un pour l'autre, boum. » Et ben voilà, ben c'est tout. C'est finalement, pour répondre à ta question, je crois que l'anecdote, elle est tout à fait… Elle est tout à fait
significative. Ah oui, oui, elle est... voilà. Ils ont eu de la chance de matcher au niveau physique.
Ouais.
Et, mais en tout cas, ouais, c'est une jolie histoire. Alors, pour revenir à des choses un peu plus prosaïques, mais oui. Sur les sites et les applications de rencontres,
oui.
Concrètement, est-ce que tu penses que c'est un outil qui fonctionne pour arriver à se mettre en couple, comme tu dis,
comme on disait,
exclusif, monogame et ultime. Est-ce que tu penses que c'est un outil efficace? Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent « Ouh, les apps, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, ils veulent qu'on reste célibataire, etc. »
Alors oui, c'est vrai que la manière dont les logiciels, les algorithmes plutôt sont conçus, c'est fait pour que tu restes le plus longtemps possible. On te présente des profils qui ne correspondent pas trop à ce que tu peux rechercher parce que ça te déconcerte et ça t'interroge. Et ça voilà. Bon. Néanmoins, j'ai coutume de dire depuis bien longtemps, en ligne, on trouve toujours l'amour, mais on ne trouve pas toujours l'amour qu'on cherche. Bon, alors, néanmoins là, je crois que moi, je vais pas me faire le porte-valise ou le porte-étendard des sites et des applis. C'est vrai qu'on trouve l'amour pour la vie ou pour la nuit. Néanmoins, il faut reconnaître que ces couples et ces applis, même s'il y a de la casse, relationnel, etc., etc., duplicité, mensonge, adultère, tromperie, consommation, zapping, ghosting, etc., etc., il faut quand même reconnaître qu'on trouve l'amour et que les livres d'or des sites et des applis, répétais-je, ils ont fait des milliers et des dizaines de milliers de couples quand même, hein, il faut reconnaître, voilà.
Et t'en es l'exemple, semble-t-il, ce que tu nous as dit, t'as été en couple grâce à Internet à un moment de ta
mais
vie.
Pas actuellement.
Mais t'as vécu une histoire de couple.
Oui, ouais, il y a longtemps. Effectivement, mais actuellement, c'est un quai de gare. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est mon histoire.
Bon.
Voilà. Ah bon.
C'est pas mal, le quai de gare aussi. Ouais. OK. Et est-ce que, donc voilà, on vient de dire que ces outils, donc selon toi, ils fonctionnent. Et bon, est-ce que tu es aussi d'accord pour dire, alors j'ai vu pas mal d'études qui sont en train de montrer que ça devient le moyen numéro un de création de couple en France, voire que ça l'est déjà à Paris.
Oui, bien sûr. Bah, enfin, j'ai pas les chiffres, mais il y en a. Hein. Il faudrait juste documenter. Mais je sais que j'avais lu récemment qu'aux États-Unis, plus de la moitié des couples de trentenaires et de cadras se constituent grâce aux réseaux sociaux, aux applis de drague et aux sites de rencontres. Voilà. Donc oui, c'est devenu mainstream. Et autant quand j'ai fait mon premier livre en 2003, les gens avaient un peu honte. Les gens qui s'étaient rencontrés sur des sites ne le disaient pas trop, ils se refaisaient un narratif en disant on s'est rencontrés chez des amis, etc. etc.
Ça, c'est moins le cas maintenant.
Ouais, bah, je veux dire, les sites et les applis, c'est juste l'arme fatale dans l'arsenal de la séduction et c'est complètement assumé. C'est complètement assumé à visage découvert. On voit parfois des gens même connus ou qu'on connaît qui ne s'en cachent même pas parce que voilà, on est dans une société d'individualisme connecté, on est dans une société de solitudes interactives et pour rompre cette solitude et faire couple ou déjà faire lien, eh bien il est clair que les sites et les applis sont le plus sûr moyen, bien évidemment, d'y arriver. Hein, voilà, et tout le monde est à peu près d'accord avec ça désormais.
Absolument, ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, de mon côté, j'ai une mini théorie. J'aimerais vaut ce qu'elle vaut, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'il y a une sorte de darwinisme sentimental qui se met en place petit à petit avec les apps de dating et ces nouvelles technologies. En gros, d'un côté, j'observe qu'il y a pas mal de personnes qui se refusent absolument à embrasser ces nouvelles technologies pour faire des rencontres et qui vont préférer les méthodes traditionnelles et qui, pour moi, ont statistiquement, surtout quand on dépasse un certain âge, moins de chances de trouver un compagnon. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes qui, même à contre-cœur, vont aller sur ces services, vont essayer de s'y adapter et qui ont donc, selon moi, plus de chances de réussir. C'est ce que j'appelle le darwinisme sentimental. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'en gros, pour résumer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ne pas aller sur les apps, quand on a dépassé la barre des 30 ans et qu'on est célibataire et qu'on veut construire un couple durable, bah, c'est se tirer une voire deux balles dans le pied.
Oui, c'est vrai que bah, je disais mon expression un peu facile, c'est l'arme fatale. Mais c'est vrai, alors il y a eu beaucoup. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont complètement opposés, parce
Ouais.
qu'ils choisissent la vraie vie, parce qu'ils considèrent que c'est un repère de détraqués, de machins, de trucs, que c'est le règne de la duplicité, de la consommation sentimentale et relationnelle et sexuelle surtout. Bon, alors ma foi, je les laisse juste de ça. Après, oui, c'est vrai qu'en 2023, bah, c'est pas évident quand même. C'est pas évident si on est célibataire et si on veut rencontrer. C'est pas évident de s'en passer. À part être très très beau, être très très séduisant, être très très charismatique, avoir une position sociale enviable. Je parle pas tant de l'argent que des possibilités de rencontres que ça va t'offrir. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis alors, par contre, ce que j'ai beaucoup vu quand j'interviewais des gens qui fréquentent ces technologies, Antoine, c'est qu'on les adore, puis on les déteste, puis on adore les détester, puis on y revient. On est
Ouais.
célibataire parce qu'on sort d'une relation qui a été frustrante, alors on va plonger là-dedans, et puis ouais, on rencontre des gens, ça narcissise vachement quand même. Tu sais, au début,
Ah
le
ben.
premier soir, tu arrives chez toi, tu as plein de likes, plein de matchs et tout. Bon, voilà,
Et
donc
les
au début, on
applications
va.
font en sorte que tu sois un peu ce soit grisant les premiers jours,
Tout
justement.
à fait, tout à fait. Donc au début, tu vas adorer, puis après, tu vas prendre des gueules de bois parce qu'effectivement, bah, il y a de la personne qui va pas venir au rendez-vous, qui va se casser au bout de 3 minutes, ou qui va t'avouer qu'en fait elle est en couple, mais que c'est compliqué, etc. Donc le plan est un peu foireux. Donc après tu vas détester les applis, puis après tu vas adorer les détester en disant du mal à tout le monde. Et
Ouais,
puis
c'est
ben
un
un
je
soir de
t'aime moi non
solitude,
plus.
c'est exactement je t'aime moi non plus, c'est qu'un soir de solitude, tu vas dire bon ben c'est peut-être pas si mal que ça quand même, puis tu t'y remets quoi.
Ouais, j'en avais parlé dans un de mes articles. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont sur les apps souvent sur un malentendu, qui vont se mettre à fantasmer, qui vont ensuite un peu souvent vivre une déception. C'est souvent le cas sur une app de dating, on va en vivre une à un moment, et qui du coup vont chercher un peu un bourreau, quoi. Et je faisais le parallèle, je trouve que c'est un peu la même relation qu'on a avec nos politiciens.
Ou
C'est-à-dire
un
qu'on
bouc
attend,
émissaire,
ou un bouc émissaire, c'est, on en fait des sauveurs ou bien des bourreaux, quoi, en fonction de l'état dans lequel on est. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet d'aller au prochain sujet, c'est que je pense, c'est mon avis, et qu'il faut, en tout cas, que les gens qui arrivent, consciemment ou inconsciemment, vont avoir une approche et une méthode sur les apps de rencontre. Et je pense qu'on va assister petit à petit à une sorte de professionnalisation des usages des apps de dating. Parce que il y a une approche rationnelle souvent pour quand même en avoir un usage efficace et surtout sain. Qu'on y va justement de manière très émotionnelle avec des attentes disproportionnées, en fantasmant, etc., c'est là où on se prend des torgnoles énormes.
Ouais, je pense qu'effectivement, on va rationaliser. Il faut les usages se sont largement sédentarisés, et je pense qu'il faut y aller avec une espèce de grille qui ne va pas désenchanter complètement, mais qui va poser ce qu'on appelle des red flags. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vois que la personne ne se connecte pas du vendredi soir au lundi matin,
C'est
tu vois,
oui, bon, il
voilà.
est peut-être marié, ouais, peut-être marié.
Etc., etc. Voilà. Donc, après, ça dépend de ce que tu cherches, hein, parce que
Mais
ne soit. Oui, dis-moi,
pardon,
pardon.
non, non, pardon, je termine.
Ben, je disais, ne soyons pas moralistes non plus. Je veux dire, bon,
Exactement.
des personnes peuvent être là pour s'envoyer en l'air, sans payer une bonne tranche, et puis il n'y a pas de entre adultes consentants, ma foi. Voilà, mais l'idée, c'est qu'il faut une grille en tête, une espèce de grille qui permet de voir un petit peu ce qu'on veut et est-ce
Oui,
que ce
comprendre les
qu'on.
codes pour
Voilà,
arriver
c'est ça.
en fait à voyager de manière safe dans cette jungle, on va dire.
Voilà, c'est
D'ailleurs,
ça.
tu as parlé de red flag. Moi, c'est quelque chose dont je pense que les auditrices et les auditeurs, j'en parle extrêmement souvent, d'avoir cette grille de lecture justement. Et je voulais juste d'ailleurs dire un truc. Quand je parle de rationaliser la rencontre, on pourrait se dire, ok, en effet, ça désenchante, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'émotion. Alors moi, je ne partage pas du tout cette théorie qu'on retrouve d'ailleurs chez Eva Illouz, je crois qu'elle dit l'amour est mort, un truc comme ça. Moi, je pense juste que l'accès à l'amour est en train de changer, mais que l'essence même de cette émotion ultime, l'amour, ben, c'est juste qu'elle va arriver à un moment différent. Mais en gros, une fois qu'on a dépassé la prise de contact virtuelle et qu'on se retrouve dans la vraie vie, ben là, on retourne à ces choses fondamentales et à ces émotions pures, quoi.
Bien sûr, voilà, et puis il ne faut pas tarder à rencontrer parce que plus on attend,
Exactement.
et alors plus le désir monte, certes, mais plus la cristallisation, pour le dire comme Stendhal, se met en place et plus on va idéaliser une relation, une personne, alors que c'est peut-être pas forcément ce qu'on va avoir au rendez-vous. Donc il faut.
Et c'est là où le couple de Montpellier dont tu parlais a eu de la chance quand même, après avoir énormément échangé de qu'il y a un match physique, parce que ça arrive rarement quand même, et quand c'est pas le cas, en général, là on se prend une bonne déception.
Tout à fait.
C'était hyper intéressant. Alors, dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi. Alors, c'est pas dans ton bouquin, mais je crois que j'ai un peu regardé ton Twitter, t'en as parlé. Je voulais parler du futur. La première question que j'ai, c'est que moi, je parle, dans la newsletter, je parle pas mal d'intelligence artificielle et d'impact que ça peut avoir sur les relations amoureuses. On a tous entendu parler de ChatGPT récemment. Je sais pas aussi si t'en as entendu parler, mais il y a une start-up américaine qui s'appelle Replica, qui crée des intelligences artificielles, des sortes de boyfriend ou girlfriend, mais qui sont en vérité beaucoup plus utilisées par les hommes. Et en fait, il y a eu récemment un bug, je ne sais pas si tu as entendu parler, où en fait, cette IA a rompu avec tous ses copains à qui elle parlait, donc tous des vrais êtres humains en l'occurrence, et il y en a une partie d'entre eux qui sont retrouvés dans des dépressions. Moi, je voulais avoir ton avis sur l'impact de l'IA. Est-ce que tu penses avoir un gros impact sur le futur des relations amoureuses ?
Alors, on va nécessairement, on peut évoquer le métaverse et voir comment demain, effectivement, dans le métaverse, les relations amoureuses et les relations érotiques vont trouver leur place. Comment tout ça va prendre corps, si je puis dire. Alors, on est encore dans une phase de prospective. Je ne connaissais pas Replica, dont tu viens de me parler. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne va pas avoir des alias qui vont, ou des avatars, c'est bien le mot qui convient, qui vont draguer à notre place, qui vont nous représenter dans les univers numériques et virtuels. Et puis, la vraie personne dans la vraie vie reprendra la main, mais quand la phase exploratoire, si je puis dire, aura été déblayée. Voilà, c'est une question qui peut se poser, en effet. Oui, en effet. Après, je ne suis pas futurologue. Et il y a le magnifique film Heure, tu sais.
J'allais t'en parler.
Qui brossait les contours de l'amour et de la quête amoureuse, finalement, et du célibat et de la solitude, parce qu'il est dans une espèce Angeles crépusculaire, il traîne son mal-être, son blues, et puis voilà, il y a la voix sublime de Scarlett Johansson qui lui répond, qui est là pour lui, prévenante et tout, et puis bon, on va pas spoiler, mais il va aller désillusion, ce pauvre garçon, voilà. Donc alors est-ce que demain nos grandes villes vont être des archipels de solitude? Est-ce que quand même on va arriver à se rencontrer, si telle est la finalité? C'est une question qui reste ouverte et puis qui appartient à chacun d'entre nous aussi.
Exactement, ça reste des outils.
Parce qu'on parle beaucoup du rôle et des fonctions des nouvelles technologies et de leur importance bien évidemment, mais je crois qu'à un moment donné, c'est chacun qui de lui à lui essaye de se prendre en main, essaye de voir ce qu'il veut, et puis comment arriver à rencontrer, à sortir de la solitude, à faire couple, si c'est une finalité, et je ne dis pas que c'est la finalité, mais en tout cas, la responsabilité, elle nous incombe aussi, si je puis dire.
C'est une super fin, parce que c'est un mot que je trouve ça déjà très optimiste comme vision, et moi, c'est quelque chose que je dis en permanence, c'est que ça reste des outils. Bien entendu, ça peut être par moments des outils un tout petit peu fourbes, comme les apps de dating, mais il ne tient qu'à nous d'apprendre à en connaître les subtilités, les codes, et d'en avoir un certain type d'usage. En gros, on est responsable en grande partie de ce qui peut nous arriver, et je trouve que c'est d'ailleurs très 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 optimiste.
Ce qu'on dit, ce qu'on montre dans les apps et sur les sites, c'est nous. Que l'outil, que l'algorithme, il soit espiègle, il soit fourbe, comme tu disais, c'est une chose. Mais ce qu'on montre de soi, c'est sa vraie photo ou c'est une photo retouchée. Ce qu'on dit de soi, ce sont des mensonges ou c'est la vérité de ce qu'on pense être. Et puis, ce que l'on dit de sa quête et de ses aspirations et de sa personnalité, ça nous incombe. Et ça va aimanter certains types de personnes. Et je crois que là, c'est une responsabilité quasi morale qui incombe aux célibataires en quête et en quête d'autrui, de se dire que le chemin, il est pas pavé d'embûches, mais le chemin
sinueux.
Il est sinueux, mais ça vaut la peine de le faire, parce qu'on apprend aussi à mieux se connaître, on apprend à s'éprouver, et puis on regarde le chemin parcouru avec satisfaction, mais sans regret, le jour où on a trouvé l'amour.
Exactement, ça demande un peu d'effort, ça tombe pas du ciel, ça vaut le coup.
Voilà. Voilà, voilà.
Écoute, Pascal, encore une fois, vraiment merci d'avoir accepté mon invitation. Entre tes différentes invitations à France Inter et tout ça, je suppose que tu es très demandé, donc c'est vraiment...
Bon, je ne suis pas Mick Jagger non plus.
Non, mais tu es quand même...
Et puis, c'est un vrai plaisir d'avoir cette belle conversation, parce que ça a été une conversation. Voilà, j'espère que les auditrices et les auditeurs, ça les aura intéressés. Et puis,
Justement, voilà, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, et je vous le conseille franchement, fortement, vous pouvez retrouver le livre, donc, S'aimer à l'ère des masques et des écrans aux éditions de l'Aube, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'en avais parlé dans ma toute première newsletter d'ailleurs, tu avais inauguré, tu le sais pas, mais j'avais j'avais résumé certains points de ton bouquin dans la toute première newsletter, et là je tenais à t'inviter, pour ceux qui veulent relire la toute première newsletter où j'en parle, vous pouvez, il y a le lien et je vais le remettre dans la description pour que vous puissiez acheter le bouquin.
Merci beaucoup
Pascal.
Merci à tous, et puis peut-être à une prochaine fois en tout cas.
Je l'espère, écoute, à très bientôt encore.